Ce matin, je vais vous parler pas d'un passage en particulier, plus d'un thème. Je voulais vous parler du thème du travail, parce que si on regarde le travail d'un point de vue français, quand on n'en a pas en France du travail, on se plaint. Et quand on en a un, on rentre chez soi et on se plaint aussi. Alors, je ne dis pas ça pour moquer des Français. Parce que j'en fais partie également et je pense aussi que régulièrement ma femme doit entendre mes plaintes quand je rentre du travail. Mais au final, que dit la Bible à ce sujet? On peut se méprendre et voir le travail un peu comme une punition divine. Parce qu'au final, quand on reprend dans Genèse, après la chute, l'Éternel s'adresse à Adam et Ève et les reprend par rapport à leur action et leur annonce la sentence. Je ne vais pas tout relire, mais je vais lire seulement des versets choisis ce matin, et puis je vous invite après, si besoin, à compléter les passages. Je vais lire donc deux versets dans Genèse 3, les versets 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors l'idée, c'est évidemment, il y a eu une désobéissance, il y a eu une faute, et il y a une sanction. C'est un schéma qui peut nous paraître classique. Mais on a l'impression du coup de voir le travail qu'au travers de ça. Le travail, c'est une punition divine. Et si on se plaint, c'est parce que le travail, c'est pénible. Et c'est pénible parce qu'en fait, on paye la faute d'Adam au final, qui a écouté sa femme. Non pas que ce soit un péché d'écouter sa femme, évidemment, mais que dans ce cas-là, à partir du moment où notre femme, ou bien le mari, hein, ou peu importe qui c'est, à partir du moment où tient un discours contraire à ce que Dieu a dit, on est censé éviter de suivre ce discours-là. Ce qu'on oublie quand on réduit le travail à son aspect pénible et à son aspect punition divine, bah c'est que Dieu, il a commencé la création par travailler. Il a commencé la Bible par le travail. Il a fait la création. Il nous a donné un modèle. Il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le septième. Modèle que nous suivons encore aujourd'hui, plus ou moins suivant nos métiers. Moi, je travaille 5 jours et j'en ai 2 où je me repose. Merci Seigneur. Alors que dans d'autres pays, certains vont travailler 7 jours sans jamais se reposer. Le concept de congé payé n'est pas arrivé partout encore. Dieu nous donne un modèle et on se souvient aussi dans la création que Dieu nous a fait à son image. Et donc, s'il nous fait à son image et que lui commence par travailler 6 jours avant de se reposer, ce n'est pas pour que nous, on soit là en se disant, je vais me reposer 7 jours, Dieu pourvoira. On oublie peut-être aussi que dans le jardin d'Éden, Adam n'était pas juste là allongé à faire la sieste toute la journée. Dans Genèse 2, Dieu montre que l'homme donne des noms au bétail, aux oiseaux, aux animaux, etc. Donc l'homme est actif dans ce jardin. C'est l'homme qui vient donner les noms, ce n'est pas Dieu qui lui dit ça, c'est un canard. C'est à l'homme de venir nommer la création. On voit aussi que Dieu a donné la domination à l'homme sur la terre et sur ses créatures. Donc il nous donne une responsabilité aussi par rapport à ça, qu'on en fasse quelque chose de bien ou pas. Et dans Genèse 2 aussi, au verset 15, c'est marqué, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc avant même qu'on évoque la sanction divine et le fait de devoir travailler la terre pour en tirer son pain, Adam était responsable du jardin d'Éden et Adam devait le cultiver, devait en prendre soin, tout comme Adam a aussi nommé, a donné des noms à tout ce qui avait été créé. Bon, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup le travail que par son aspect négatif, que par son aspect pénible. Et d'ailleurs, le mot travail, l'étymologie en latin, ça vient d'un instrument de torture. Donc, c'est assez clair que pourquoi ça a donné ce mot-là, on voit ça vraiment comme une torture. Et ce qui est marrant, c'est que le mot métier, lui, il vient du latin aussi, mais il vient plus de ministerium, donc le ministère. Est-ce que nous voyons notre travail du coup comme un travail, comme une torture, comme un acte pénible parce qu'on n'a pas le choix, ou est-ce que vous le voyez comme un ministère, un service que vous rendez à Dieu qui vous a placé sur terre avec une certaine charge? si on regarde autour de nous, si on écoute autour de nous, on travaille toujours trop, on n'est jamais payé assez, il n'y a pas assez de vacances, etc. Dès que je vais parler de mon métier, les gens vont dire « oui, mais toujours en grève, oui, mais vous, vous avez plein de vacances, etc. » Et moi, quand je leur dis « venez sur le terrain faire ce qu'on fait, vous allez voir », les gens sont un peu moins volontaires. Et quel que soit le métier, on va toujours voir que les aspects qu'on a envie d'y voir. Et quelqu'un qui va me voir en tant qu'enseignant, il va peut-être vouloir retenir le fait que j'ai juste plein de vacances. Et moi, quand je vais voir le travail d'un autre, je vais me dire « ils ont un 13e mois, moi, j'en ai jamais eu ». Et on va toujours regarder un petit peu les aspects positifs des métiers des autres. Et quand on regarde son propre métier, au lieu d'être reconnaissant et de dire « merci Seigneur », on va voir que les aspects négatifs, que la précarité, que l'instabilité, la pénibilité, tous ces termes-là en « et » qu'on pourrait trouver sur le sujet. Le travail, ça nous est donné dès la Genèse, comme exemple par Dieu, qui fait la création, qui nous place aussi en charge de cette création, qui nous donne cette responsabilité. La pénibilité du travail vient de la punition divine, mais le rôle qu'on avait était déjà établi avant que ce travail soit rendu pénible. On imagine bien que Adam et Ève n'avaient pas forcément à attendre assis par terre que des fruits tombent et roulent jusqu'à eux. Ils devaient certainement aller cultiver le jardin, certainement aller cueillir eux-mêmes leurs fruits. Simplement, c'était beaucoup moins pénible que de devoir labourer la terre et semer et arracher des mauvaises herbes ou autres. On pourrait aussi restreindre l'aspect du travail, ce que font parfois certains mouvements, certaines églises, de dire que la punition elle est donnée à l'homme. Donc en fait, le travail, c'est masculin. La femme, c'est les enfants, c'est la maison, c'est le ménage. Mais ce n'est pas un vrai travail, ce n'est pas un vrai métier. C'est l'homme qui a le métier. Alors évidemment, si vous ne lisez que ce passage-là avec cet œil-là, c'est comme si on ne lisait que 2-3 versets dans la Bible, on en ferait un petit peu ce qu'on voudrait, on pourrait dire ce qu'on veut. Si on lit dans Proverbe 31, par exemple, qui parle de la femme vertueuse, je vais vous lire juste quelques morceaux comme ça, mais je vous invite tous, hommes comme femmes, à relire ce passage qui est assez riche. On voit que la femme, elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes, elle pense à un champ et elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Plus loin, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Plus loin, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin, elle fait des chemises et les vend, elle livre des ceintures aux marchands, etc. Si on voit la vision de la femme vertueuse dans la Bible, ce n'est pas une femme inactive qui reste à la maison et qui, en gros, ne bénéficie que de ce que son mari fait, mais c'est une femme qui est aussi active et qui travaille également. La pénibilité du travail n'est pas donnée qu'à l'homme en tant que qu'être masculin, mais il est donné à l'ensemble de la création à partir du moment où le péché est rentré, du coup, sur terre. On imagine aussi que de toute façon, si moi j'allais au travail et qu'il n'y avait aucun péché, si Adam et Ève n'avaient pas péché, je pense que mon travail ne serait absolument pas pénible. Je pense que apprendre des choses à des enfants qui seraient parfaitement sages, à l'écoute, attentifs, ce serait une joie de chaque jour et je me lèverais tous les matins avec le sourire et l'envie d'aller au travail. Et pas l'envie de rentrer chez moi, retrouver ma famille. On se rend compte que cette punition donc partagée par l'homme et la femme, c'est cet aspect pénible qui est donné au travail et ce côté humain qu'on a, c'est de vouloir toujours tout réduire à ça, ne vouloir voir que les aspects négatifs. On peut repenser à un autre moment, par exemple, ça m'a fait penser aussi au peuple qui est dans le désert pendant 40 ans. Là, il n'y a aucune pénibilité, ils n'ont pas à labourer ou à semer dans le désert. Dieu leur donne le pain quotidien. Est-ce que pour autant, ils ont arrêté de se plaindre? Je ne crois pas. Ils ont quand même eu un temps de 40 années qui était béni quelque part, même si c'était aussi une forme de punition pour eux. Un temps où leurs vêtements ne s'usaient pas, comme nous dit la parole. Un temps où tous les matins, le pain était là, il n'y avait qu'à le ramasser et a priori, ce n'était pas mauvais. J'aurais bien aimé goûter la manne que Dieu envoyait. Quand ils avaient envie de viande, Dieu leur envoyait des cailles. Enfin, quelque part, la situation idéale. Moi, j'aimerais bien être dans le désert, posé, et Dieu qui me nourrit tous les jours. Si on reprend ce peuple à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient tous les jours à louer Dieu et à le remercier? Si vous lisez ces passages-là, vous vous rendez compte qu'ils passent leur temps à se plaindre, au point de répéter quand même un certain nombre de fois que c'était mieux quand ils étaient esclaves en Égypte et qu'on leur tapait dessus pour les forcer à travailler. Là, l'aspect pénible du travail, pour les esclaves en Égypte, je veux bien le voir et je veux bien comprendre que le soir, quand ils rentrent chez eux, ils aient envie de se plaindre. Au final, on se rend compte que l'homme, même dans ces temps de pause que Dieu accorde parfois, où Dieu nous nourrit sans qu'on ait rien à faire, on continue quand même de se plaindre et on veut toujours voir ailleurs, et on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs. On peut penser aussi à ces moments-là comme les moments d'inactivité qu'on peut avoir, les moments de chômage qu'on peut avoir. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'être au chômage? Mais encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce qu'on est au chômage en se disant « bon, j'ai 2 ans à toucher de l'argent sans rien faire, je vais en profiter pleinement et ça va être cool, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, je profite des aides de l'État hein. » Ce que font certains, que ce soit au chômage, au RSA ou autre, il y en a qui sont dans cette optique-là. Ou bien est-ce que je suis au chômage parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il y a telle ou telle situation, il y a une crise actuellement qui a fait fermer les entreprises, mais je recherche du travail, je m'occupe, je reste actif et je fais tout ce qui est en mon possible, en mon pouvoir pour trouver du travail. Je ne prie pas pour que Dieu prolonge mon chômage et que je sois tranquille chez moi, mais je prie pour que Dieu m'accorde un travail. Cet état d'esprit-là, l'apôtre Paul le reprend notamment dans 2 Thessaloniciens 3. Donc, je vais vous lire les versets 8 à 12. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, c'est dans ce passage-là. Si on lit juste ça, on se rend bien compte que, heureusement, en France, on a la chance d'avoir des prestations sociales, on a la chance. Quand on se retrouve dans des situations particulières ou quand on se retrouve malgré nous au chômage, d'avoir quand même de quoi subsister. Mais ce n'est pas un état d'esprit dans lequel on doit être. On ne doit pas se dire « je suis chrétien, j'ai le droit d'être inactif ». Et notamment l'apôtre Paul, même si on peut dire « il n'a jamais été inactif » dans le sens où il a écrit de nombreuses lettres, il a fait de très nombreux voyages, il a donné de très nombreuses prédications, notamment à l'église de Thessalonique, il a travaillé pour n'être à charge de personne. Je vous relis ces versets un petit peu plus dans leur entier. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Est-ce que je suis en train de pécher si je suis au chômage ou si je me retrouve inactif? Non. Ce que l'apôtre Paul dénonce, c'est des gens qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est des gens qui ne concentrent pas leur temps à essayer de trouver un travail, essayer d'aider au mieux. Et si, il y a un temps où il n'y a pas forcément un travail pécunier, on peut aussi travailler pour l'Église bénévolement. L'apôtre Paul, tout comme d'autres apôtres, ou tout comme d'autres personnes du ministère, ont parfois été soutenus par les Églises ou par les frères, parce que leur travail principal était justement de s'occuper du peuple de Dieu et ne leur laissait pas le temps pour un travail, on va dire, pécunier à côté. Et donc, de fait, ils étaient soutenus, tout comme aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde sont soutenues par des chrétiens pour pouvoir consacrer pleinement leur temps à Dieu. Mais est-ce que, du coup, nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est une bonne chose? Par exemple, là, je suis en train de vous apporter une prédication. Prédication qui m'a pris du temps. Est-ce que je suis salarié par l'Église pour autant? Est-ce que tout travail mérite salaire, comme on entend souvent l'adage? Je jette un œil à Joël parce que c'est notre trésorier. Si demain, on commence à dire, mais écoute, nous, on passe du temps quand même à travailler pour l'Église, c'est normal qu'on ait un salaire, l'Église a de l'argent, redistribuons. Alors, il ne s'agit pas juste de me rémunérer moi, parce que ce matin, je ne suis pas le seul à travailler, et je pense que je ne suis pas celui qui devrait toucher le plus dans cette Église, je ne suis pas celui du tout qu'on fait le plus. Mais en ce moment, il y a des travaux, on devrait certainement payer les ouvriers. Joël a fait la présidence, la Sainte-Seine. Il y a des tas de personnes qui participent au sein de l'Église. Où est notre salaire? Il y a des tas de gens qui sont payés pour ce qu'ils font. C'est un travail aussi. Alors, c'est un peu une déformation de notre part quand on dit que c'est biblique, tout travail mérite salaire. Les mots « tout travail mérite salaire », vous ne les trouvez pas dans la Bible. C'est souvent nous qui déformons un petit peu les choses. Au final, dans 1 Timothée, il écrit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, on déforme souvent ce passage-là dans 1 Timothée 5 pour dire que tout ce qu'on fait mérite un salaire. Maintenant, si on avait le choix, Si demain l'Église a le choix de dire, par exemple, on va rémunérer nos prédicateurs avec de l'argent, mais c'est là leur récompense. Est-ce que c'est là ce que je choisirais? Est-ce que je préfère une petite somme d'argent sur terre ou est-ce que je préfère travailler pour le Seigneur sans intérêt particulier et amasser des trésors dans le ciel? Et là, on soulage tous notre financier Joël qui se dit « Oui, faites ça, travaillez pour Dieu ». Évidemment, si un jour on est amené à devoir sacrifier quelque part tellement de temps pour l'occupation de l'Église qu'on n'a pas de quoi après subvenir à nos besoins, ce qui est le cas de nombreux pasteurs, évangélistes et autres, il est normal que ces personnes-là soient du coup rémunérées aussi pour leur service pour le Seigneur, même si à la base, servir Dieu ne devrait pas mener à une rémunération en ce sens. Tout comme les apôtres ont été parfois soutenus par les églises parce qu'ils prenaient leur plein temps à travailler pour l'Église. De même, on ne doit pas chercher dans notre travail, que ce soit professionnel ou que ce soit en tant que chrétien, un quelconque intérêt, qu'il soit financier ou autre, mais simplement nous dire, c'est là notre rôle, c'est là notre charge. Un oiseau qui vole dans le ciel ne va pas se poser en disant, j'ai volé, maintenant payez-moi pour ça. Ça fait partie de qui il est, il a été créé dans ce but, et s'il vole, c'est que Dieu lui a donné des ailes. Dieu nous a créés sur cette terre pour prendre soin de cette terre. Même si on regarde un peu autour de nous, on a un peu raté, beaucoup raté peut-être. Dieu nous a créés dans le but quand même d'assouvir la création, de l'assujettir, de cultiver le jardin d'Éden au début, puis après de cultiver la terre. Dieu nous a donné de travailler. Dieu nous appelle ouvriers aussi. Et dans de nombreuses paraboles, quand par exemple il va chercher des ouvriers pour un champ et le soir il donne le même salaire à tous, et certains ratent déjà, Dieu nous a appelés tous à être ses ouvriers, et à recevoir le même salaire au final, à avoir tous la vie éternelle aussi à la fin, même si au final, ce n'est pas notre travail qui nous donne droit à ce salaire, mais c'est la grâce que Dieu nous fait de nous l'accorder. Dieu pourrait très bien nous exploiter. Dieu pourrait très bien nous considérer comme ses esclaves, et on n'aurait rien à dire. Mais au final, Dieu nous appelle ses ouvriers, Dieu nous appelle ses enfants, et Dieu nous donne un salaire qui est bien au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer toucher. Si avec mes propres forces, je suis capable de gagner 1000, 2000, 3000 euros, la vie éternelle, je pourrais travailler ma vie entière, qu'à aucun moment je n'approche du montant nécessaire. Paul nous donne, dans le passage de Thessaloniciens que je vous ai lu tout à l'heure, cet exemple en disant « Nous avons voulu vous donner un modèle à imiter ». Dieu, dès la Genèse, nous donne aussi un modèle à imiter au sein du travail. Il nous donne déjà ce temps de « je travaille et j'ai le droit aussi à du repos ». Dieu nous donne aussi l'importance du travail et nous montre que lui-même, le premier, est à l'œuvre et est actif. On n'a pas un Dieu passif au ciel qui, de temps en temps, jette un regard sur nous ou qui laisse ses anges faire tout le travail. On a un Dieu qui est actif au point d'être venu lui-même sur terre. Tout comme il peut y avoir des temps de pause dans le travail, que ce soit des temps de chômage, des temps de congé, que ce soit dans le travail, dans le domaine professionnel ou dans le domaine, on va dire, plutôt du service à l'Église. On a des exemples dans la Bible. Jésus, de temps en temps, s'isolait aussi, de temps en temps, faisait des pauses, il ne passait pas toujours son temps dans les foules. Élie aussi, Dieu, à un moment donné, l'a isolé, l'a préservé. On a de nombreux exemples dans la parole où il prenait des temps, justement aussi pour se reposer, pour se ressourcer, pour aussi être en lien avec leur Père. Ce n'est pas une mauvaise chose, parfois, de faire une pause dans le travail. Tout comme, du coup, est-ce que la retraite, c'est la fin d'un temps béni où on travaillait et on se retrouve maudit par Dieu parce qu'on est inactif? Pas du tout. La retraite permet aussi à de très nombreuses personnes déjà de se reposer de leur longue vie de travail, mais aussi d'utiliser ce nouveau temps libéré pour plein d'autres choses, que ce soit dans, on va dire, le service envers leur famille, parce qu'on est tous très contents d'avoir des grands-parents qui peuvent parfois garder des enfants, par exemple. Ou bien dans le service envers l'Église, on a aussi beaucoup de retraités qui sont quand même très actifs au sein de l'Église. Et au final, Dieu ne nous appelle pas à une retraite spirituelle, mais il peut nous appeler aussi à des temps de repos sur terre et à des temps de retraite aussi sur terre. Si on reprend le but même de tout ce travail, et pour essayer non plus d'en faire un travail qui est une torture qui est pénible, mais pour en faire un métier qui est un ministère et un service voulu et pour Dieu. On peut penser aussi à d'autres versets que je vais vous lire, comme dans Jean 6, où Dieu nous dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. » Là, on voit bien le but. Je ne vais pas travailler pour gagner plus, comme dirait un certain président. Je vais travailler pour plaire à Dieu. Si je peux gagner plus et si je peux utiliser cet argent pour l'œuvre de Dieu, tant mieux. Dieu ne nous dit pas à 35 heures, c'est le max, ne fais pas plus. Ça, c'est notre esprit très français. Mais ce que Dieu nous dit, et il le répète aussi en Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On pourrait passer notre vie à nous investir tellement dans le travail qu'on laisserait Dieu de côté, qu'on amasserait des sommes folles, et puis au final, il suffit derrière d'une crise, il suffit derrière d'un incendie ou de je ne sais quoi, et hop, on peut tout perdre. Il y a des gens qui ont été extrêmement riches à certains moments, qui se sont retrouvés à la rue à d'autres. Si on pense aussi au fils prodigue, qui est parti de chez lui avec une somme certainement très confortable, il aurait pu l'investir, il aurait pu l'utiliser pour monter son entreprise, il aurait pu faire des tas de choses. Il a dilapidé et il s'est retrouvé de la richesse à la pauvreté. Au final, ces exemples que Dieu nous donne, c'est nous montrer qu'il ne nous demande pas de ne pas travailler sur terre pour ne pas gagner d'argent, mais il nous montre que notre motivation première, ça doit être les trésors dans le ciel, c'est la nourriture céleste et pas la nourriture terrestre. Évidemment, on a besoin de travailler sur terre, évidemment, c'est une bonne chose de faire des heures supplémentaires, de s'investir, de travailler même quand ça n'est pas payé, mais n'oublions pas l'essentiel. Je pense que certaines personnes vont s'investir tellement dans leur travail que ça devient la préoccupation numéro un dans leur vie et Dieu se retrouve relégué au second plan. Tout comme Dieu n'aime pas ceux qui vont rester inactifs, Dieu aimerait qu'on soit actif, mais dans le bon sens et là où il a voulu nous placer avec les compétences qu'il nous a données et les dons qu'il nous a donnés à chacun. Si on reprend la parabole des talents, Dieu a confié 10 à l'un et il en a eu 10 en retour et Dieu était satisfait. Et à celui à qui il a donné 5, il en a eu 5 en retour et il était satisfait. Mais à celui à qui il a donné 1 et qui n'a rien fait avec, là, il s'est mis en colère. Le Seigneur nous a donné des dons. Alors, pour certains, ça peut être de servir de telle ou telle façon. Pour d'autres, ça peut être pour servir d'une autre façon. Une personne qui reste au foyer et qui gère sa famille n'est pas moins active qu'une personne qui se lève tous les matins pour aller à l'usine. Une personne qui, du coup, se retrouve au chômage pour une raison, mettons, de crise professionnelle, peut très bien aussi servir l'Église pendant ce temps-là, plus particulièrement, ou prendre soin de ses frères et sœurs. Et au final, Dieu ne nous demande pas d'être actif au sens où le gouvernement l'entend. Le gouvernement aimerait qu'on travaille tous, que personne ne soit au chômage, qu'on travaille tous plus, sans forcément demander plus en retour. Mais notre Dieu nous demande simplement de servir plus, ce qui est différent. Ça peut être au sein de notre travail, comme ça peut être au sein aussi d'autres activités. Si on reprend un autre exemple, est-ce que vous courez pour le plaisir, parce que vous aimez bien vous balader et faire un peu de jogging, ou est-ce que vous courez pour remporter le prix, comme la parole nous le dit? Est-ce que vous faites votre travail un peu tous les jours, par habitude, par obligation, parce que faut bien manger quand même et ça coûte cher? Ou est-ce que vous le faites dans le but de servir Dieu, dans le but d'accomplir votre ministère, dans le but d'utiliser et d'exploiter les compétences, les dons qu'il vous a donnés, dans le but de faire fructifier ces talents qu'il vous a confiés, quel qu'en soit le nombre. Et au lieu d'être là à regarder à celui qui a eu plus que vous, mais duquel on attend plus, est-ce que vous êtes là à regarder ce que Dieu vous a donné pour en faire ce qui doit être fait ? La Bible nous dit bien, on ne court pas pour le plaisir, on court comme pour remporter la course. Et remporter une course, ça demande des efforts. Ce n'est pas juste à un moment donné où je me dis, aujourd'hui c'est le jour de la course, je vais me pousser un peu. Mais en amont de ça, il y a toute une phase d'entraînement, il y a toute une phase de remise en question, où il faut repérer ses défauts, essayer de les gommer, améliorer son départ si c'est ça qui pose souci, etc. Il y a toute une phase de nutrition aussi, de ne pas manger n'importe quoi. Il y a une phase de repos. Il y a tout cet aspect-là qu'on oublie. Et nous, on a envie de voir peut-être simplement la victoire finale et on se dit, bah, j'aimerais bien être celui qui soulève la coupe. J'aimerais bien être celui qui remporte le prix sans faire forcément tous les sacrifices nécessaires qui viennent avant. Alors, est-ce que notre travail, notre métier, c'est une bénédiction de Dieu ou est-ce que c'est une punition de Dieu? Est-ce que nous faisons les choses dans le bon sens? Est-ce que nous sommes là pour subsister pour notre temps sur Terre et essayer de subsister de la façon la plus agréable et la plus, on va dire, appréciable, comme font certains qui vont se faire bâtir des villas, qui auront 10 voitures de luxe, des vêtements qu'ils n'ont jamais le temps de porter tellement ils en ont, etc. Ou est-ce qu'on va utiliser ce temps sur Terre pour travailler, pour subsister, parce que c'est la conséquence aussi du péché. On a à travailler et on a à avoir de la peine pour tirer notre pain, mais aussi travailler pour honorer Dieu, travailler pour accomplir la charge qui nous a été confiée, le ministère qui nous a été confié. Que ce soit d'être une femme au foyer, par exemple, qui prend soin de sa famille, que ce soit d'être chef d'entreprise, que ce soit d'être dirigeant d'une église, quelle que soit la charge que Dieu nous a fixée, est-ce qu'on est là pour le faire? Est-ce qu'on le fait dans les bonnes conditions? La parole nous dit aussi que quoi que nous fassions, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Le passage de Proverbe 31, ainsi que je ne vous ai pas lu en entier, c'est marqué que la femme travaille d'une main joyeuse. Est-ce qu'on met de la joie dans notre travail en se disant « je suis en train de servir mon Dieu » ? Est-ce qu'on met de la joie en se disant « c'est pas grand-chose par rapport à ce que Dieu me donne en retour, mais je fais ce que je peux pour aider ». Moi, quand je vois ma fille à la maison, qui est une fille pleine de joie et qui a envie d'aider tout le temps, et parfois elle ne peut pas, parfois elle peut, je me dis, voilà l'esprit qu'on doit avoir. Quand Dieu nous dit de ressembler aux enfants, ce n'est pas pour rien. Oui, tu es là. Quand Dieu nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, ce n'est pas pour rien. Quand je lui dis, va ranger ça ou autre, elle ne se lève pas en soupirant et en maugréant. Et quand moi, on m'appelle pour aller faire la vaisselle, ce n'est pas forcément le même état d'esprit. Et au final, est-ce qu'on a cet esprit d'enfant de vouloir servir à tout prix, même les choses qui nous dépassent, mais d'avoir cette envie-là? Voilà un petit peu ce que je voulais apporter ce matin. Ces réflexions viennent en fait d'une discussion un peu agitée avec ma femme, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut arriver, sur justement un petit peu tout l'aspect travail, parce que c'est un aspect qui, au quotidien, nous occupe beaucoup, qui peut être source d'angoisse, source de stress. J'en avais parlé aussi ces derniers dimanches, on a des tensions au travail. Et c'est vrai qu'au final, on a l'impression de retenir souvent, quand on rentre de sa journée, que l'aspect négatif. Et moi, je sais que quand j'ai une classe de 30 élèves, mais qu'il y en a un qui va rendre l'heure pénible, je vais me souvenir de cet élève-là et pas des 29 autres qui ont écouté et appris. Et moi, le premier, je pense que j'ai beaucoup de choses à faire et justement beaucoup de choses sur lesquelles travailler, d'ailleurs, à ce sujet. Mais je me dis, on oublie les bénédictions de Dieu et on a tendance à vouloir voir que la punition divine, on voit la pénibilité et on oublie que c'est pas une souffrance, mais c'est un ministère de Dieu. Et si je suis là ce matin devant vous et si j'ai passé des heures à lire des passages, à réfléchir, à échanger avec ma femme aussi, que je remercie, qui est toujours de bons conseils sur le sujet, c'est pas dans le but de me dire je vais avoir un salaire, je vais avoir un virement de l'Église. Ne rêvons pas. Ou bien je vais avoir un salaire autre qui va peut-être être de la reconnaissance, des gens qui me disent merci ou des gens qui vont être contents, qui vont me dire « ah, c'était super ». Mais au final, ce que je le fais ni pour moi ni pour vous, mais je me dis « je le fais pour Dieu ». Et si Dieu nous montre l'exemple dans sa parole, si l'apôtre Paul a voulu montrer l'exemple dans son service, à nous tous aussi de montrer l'exemple, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos frères et sœurs de l'Église, mais que ce soit aussi au monde qui nous entoure. Et montrons-leur que, bah oui, le travail, c'est pénible, mais nous, on le fait avec joie. Parce qu'on ne travaille pas pour l'éducation nationale, on ne travaille pas pour l'État, mais on travaille au final pour Dieu, au travers de ce qu'il nous a donné comme don et du métier qu'il nous a transmis, de ce ministère qu'il a mis en place pour nous. Alors, je reprends ce que je disais en préambule. Le mot « travail » vient d'un instrument de torture. Le mot « métier » vient du mot « ministère ». à nous d'essayer de voir notre métier comme une bénédiction et de le voir avec les bons yeux, plutôt que, comme tout le monde, descendre tous les samedis dans la rue pour manifester parce qu'il y a telle loi, il y a tel truc, et eux, ils ont des primes et pas nous, et on aimerait bien bosser moins, et pourquoi lui, il gagne plus. Mais essayons de combattre le bon combat, comme nous dit la parole, et essayons de courir pour remporter le prix, pas ce prix que la terre veut nous proposer, mais le prix qui est dans le ciel. Je vais laisser là ce partage que Dieu m'a mis à cœur. Et je vous invite aussi à enrichir vos lectures, parce que plein d'autres passages et versets peuvent se prêter à ce thème.